Bienvenue, je suis Aurélie et je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost. J'ai débuté ma carrière dans les ressources humaines, c'est mon domaine coup de cœur, celui que je n'ai jamais quitté. J'en connais tous les recoins, les joies, les satisfactions, mais aussi les défis et difficultés. La pression, les exigences des uns et des autres, et toi, au milieu, qui essaye de garder le cap avec le sourire. Alors que tu sois recruteuse, coach emploi ou RH, ce podcast est fait pour toi. J'ai conçu Post Boost dans un seul objectif, vitaminer ta vie de RH. À chaque épisode, je te propose une nouvelle clé pour avancer pas à pas. Le temps d'un épisode, appuie sur pause et profite. Bonne écoute! Bienvenue, tu écoutes l'épisode 1 de Post Boost SOS Je ne comprends plus mes candidats. Ce podcast est propulsé par Savon. Je voulais commencer par un grand merci. Merci pour l'accueil que tu as réservé à la naissance de Post Boost. Depuis quelques jours, c'est de la folie et franchement, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai reçu des dizaines de messages de soutien, des commentaires. Alors ça fait chaud à mon petit cœur, bien sûr, mais surtout, ça me conforte dans ma décision. Alors merci, Koala Mule, super pseudo, qui a écrit sur Apple Podcast. Merci Aurélie, Post Boost, le podcast qui donne envie. Trop hâte d'écouter le prochain épisode. D'ailleurs, si tu veux, tu peux toi aussi laisser ton avis sur iTunes ou sur Spotify avec des petites étoiles. Et ce sera peut-être toi que je vais citer dans le prochain épisode. Allez, on passe au sujet du jour. SOS, je ne comprends plus mes candidats. Comme moi et 99% des recruteuses, tu as déjà dit cette phrase « je ne comprends pas ce candidat ». À plusieurs moments, quand un candidat n'a pas le comportement que tu attendais en entretien, et même quand un candidat que tu as reçu en entretien disparaît dans la nature. Même si pour toi, de ton côté, objectivement, tout s'est super bien passé. Et on passe toutes par la même phase, entre désespoir, exaspération, et parfois même colère et envie de tout envoyer balader. Rassure-toi, c'est normal. Et comme moi, tu as dû te poser le trio de questions qui agitent le cerveau des recruteuses dans ce cas. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe dans la tête de tes candidats. Tu ne comprends pas pourquoi son comportement n'est pas du tout celui que tu attendais. Et tout ça, c'est une question de croyance. En psychologie cognitive, on appelle les croyances les schémas cognitifs. Alors le nom peut te paraître assez barbare, mais en fait, c'est tout simple. Leur rôle est à trois niveaux. Un, le schéma cognitif permet d'analyser une situation que tu es en train de vivre. Ensuite, ça te permet de sélectionner le comportement que tu penses le plus adapté à cette situation. Et enfin, ça va déclencher une action particulière. Dans le recrutement, il y a très souvent de la friture sur la ligne entre les candidats et les recruteurs. C'est simple et finalement assez basique, les candidats et les recruteurs n'ont pas la même croyance par rapport au marché. Pour toi, le marché, c'est quelque chose de rationnel. Il y a des postes et des candidats. Les chances sont les mêmes pour tous et un process de recrutement, c'est concret. Chaque étape a un objectif bien précis. Ton annonce, elle est là pour faire part de ton besoin. Ta préqualification téléphonique, elle t'aide à valider les points principaux, la disponibilité, la rémunération, le fait que le candidat a bien compris le poste. Et si tu proposes plusieurs entretiens, soit en tant que recruteur, soit en tant que RH ou éventuellement aussi avec le N+1, le N+2, le N+3, ben pour toi, c'est clair et net, il y a des objectifs précis pour chaque rencontre et tu sais que tu cherches à valider des points différents. Et si tu utilises des mises en situation ou des tests, c'est pareil. Tu sais que ce n'est qu'une aide à ta décision, un nouveau regard. Et souvent, en tant que recruteuse, on part très souvent du postulat suivant. C'est évident que les candidats savent comment fonctionne le marché du recrutement. Nous sommes persuadés que comme nous, ils mettent en place des comportements tactiques et hyper rationnels dans leur recherche. Mais très souvent, tes candidats ne pensent pas du tout la même chose que toi. Et c'est ça qui génère de l'incompréhension. Alors ma mission aujourd'hui, c'est éclairer ta lanterne pour éviter cette fameuse friture sur la ligne avec tes candidats. Tu connais l'adage « voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ». Moi, je suis de celles qui voient le verre à moitié plein. Je sais que le marché est rationnel, alors rationnel ne veut pas dire facile, mais pour moi, chaque étape a un objectif précis et tout le monde a les mêmes chances. Dans mes différents jobs de recruteuse, mais aussi de coach emploi, je me suis aperçue avec étonnement que pour une grande majorité des candidats, ben finalement, le verre est souvent à moitié vide. D'ailleurs, j'ai lu la semaine dernière une étude intéressante qui s'appelle « Pourquoi tous les digitales natives ne sont pas égaux face aux plateformes de recrutement ?» J'ai trouvé qu'il donnait un éclairage intéressant et des pistes d'action très raccord avec notre sujet du jour. Et je te propose une synthèse des points principaux, mais bien sûr, je vais te mettre les références dans les notes de l'épisode si tu veux en savoir plus. Alors, dans cette étude qui a été réalisée par Jean Pralon, qui est enseignant-chercheur à l'EM Normandie, il a audité un échantillon de digital native. Alors, digital native, ça mérite qu'on explique un petit peu ce que c'est. Donc, cet échantillon, c'est 287 jeunes qui sont diplômés de master et on les a suivis pendant les 18 mois qui ont suivi l'obtention de leur diplôme. Et on leur a posé plusieurs questions, dont celle sur le rapport au marché du travail. Et les résultats sont hyper étonnants. 44% seulement de ces jeunes pensent que le marché est rationnel. 44%. Et même pire, 30% d'entre eux croient que le marché du travail est irrationnel et qu'il est déterminé par la chance ou le hasard. Et dans cette étude, tu pourras la lire et tu verras dans le détail, mais on voit que ça a des conséquences hyper concrètes sur leur démarche de recherche d'emploi. Ils fréquentent peu de sites d'emploi, ils ne postent pas d'informations sur les réseaux sociaux et ils ne modifient jamais leur profil sur les CVTech. Pour eux, finalement, les plateformes et le recrutement digitalisé, c'est une espèce de grosse boîte noire inaccessible. Et finalement, ils postulent un peu comme ils lanceraient une bouteille à la mer pour tenter leur chance, mais ils n'y croient pas vraiment. Et là, on parle de candidats juniors, des candidats qui baignent dans la technologie et Internet depuis qu'ils sont tout petits. Il y a donc de grandes chances que ce pourcentage soit beaucoup plus élevé sur une population plus âgée. De mon expérience, je peux faire deux hypothèses sur les incompréhensions que tu peux rencontrer avec tes candidats et je vais aussi te proposer cette semaine trois clés pour t'aider sur ce sujet. Je commence par mes hypothèses. Je suis sûre que tu as déjà vécu cette situation, celle dans laquelle un de tes candidats ne donne pas suite ou disparaît après un entretien, c'est le fameux « ghosting ». Alors, quelque chose dont tu n'as pas forcément conscience s'est passé quand tu as parlé avec ton candidat. Et ton candidat, il a perdu confiance. Ça peut être un process qu'il a trouvé pas clair, des délais qu'il a trouvé flous, ou alors un manque de considération qu'il ou elle a perçu. Et mon hypothèse est la suivante. Ton entretien a activé chez lui l'alarme, ben voilà, une fois de plus, c'est pas clair ce recrutement. En fait, ton candidat, il n'a pas compris. Ni les étapes, ni les délais. Et très souvent, il s'est considéré comme un candidat lambda. Ma deuxième hypothèse, c'est que, sans le savoir, tu as activé chez lui une situation gâchette. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que la situation gâchette ? La situation gâchette, c'est assez simple. C'est une question ou une attitude, un comportement que tu as eu et qui a activé chez lui cette fameuse croyance qui l'amène à avoir un comportement de repli. Cette question, ça va lui rappeler une situation qu'il a déjà vécue et d'ailleurs, très souvent, une situation qu'il a très mal vécue. Et donc, dans son schéma cognitif, ça va activer le comportement de repli qu'il estime être le comportement adapté. Bon, je te prends un exemple. Tu lui as parlé de management, de comportement dans une équipe, sans penser à mal. Toi, tu connais le contexte de ton client ou de ton manager, et pour toi, ces questions, elles sont complètement anodines. Mais pour lui, pas du tout. Ta question active une fois de plus son alarme interne. Ça lui rappelle un problème qu'il a eu avec son manager. Ça peut lui rappeler une promotion obtenue par un collègue, mais selon lui, c'était vraiment par piston et pas par compétence. Et bam, pour lui, c'est sûr, une fois de plus, les dés sont pipés. Et donc, cette question, elle va réactiver sa croyance que le marché est irrationnel et donc qu'il a raison de voir le verre à moitié vide. Alors, que fait-il ? Il disparaît. Alors, dans le prochain épisode, je vais accueillir Gladys Ramette, qui est recruteuse et qui en parle très bien. Moi, j'ai trouvé que son approche était très intéressante. Et pour éviter cette friture sur la ligne, elle a décidé d'adopter une approche de coach recruteur. Et je pense que cela devrait t'intéresser. Et du coup, ça, ce sera dans le prochain épisode. Mais pour l'épisode du jour, on récapitule. La friture sur la ligne, c'est juste une question de croyance. Je te propose trois clés pour anticiper ces situations. Clé numéro 1, tu dois valoriser les actions que tu mets en place sur les volets éthique et non discrimination. Puisque c'est ça, en fait, qui va activer la croyance que le marché est irrationnel et que ton candidat, il se dit qu'il n'a aucune chance parce que les dés sont pipés. Alors, comment tu peux faire ? Tu peux évidemment soigner tes prises de parole sur les réseaux sociaux. Si ton entreprise ne dispose pas de charte de non-discrimination, tu peux consulter et relayer les actualités d'une association qui s'appelle À Compétences Égales. Sa mission, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination. Je te mettrai bien entendu les notes au bas de l'épisode et sache que c'est une association nationale, donc il y a des représentations dans chaque grande ville en France. La deuxième clé, c'est que tu dois faire de ton process une marque de confiance. En fait, c'est tout simple. Tu dois rassurer ton candidat en lui expliquant le comment et le pourquoi. Le comment, ça va consister à lui expliquer précisément les étapes de ton process. Qui et pourquoi cet entretien ? À quoi il sert ? Qu'est-ce que tu souhaites valider dans cette étape ? Alors, tu dois le faire au début de ton process, mais aussi et surtout tout au long des étapes pour continuer à rassurer ton candidat. Tu dois aussi être très clair avec lui sur les délais qu'il peut attendre de ta réponse. Ben, pourquoi ? Parce que sinon, lui, son alarme interne va encore s'activer et il va se dire « ben voilà, c'est pipé, les recruteurs sont tous mauvais et moi, j'ai pas de chance et évidemment, ça m'arrive à moi. » Alors que si tu le rassures à chaque étape, même si on sait toutes les deux que des fois, tu n'as pas le choix, tu as décidé de donner une réponse, mais tu ne peux pas pour des raisons X ou Y, ben dis-lui que ça prend du retard, dis-lui que tout est toujours d'actualité. Et pour le comment aussi, c'est hyper important. Tu dois lui expliquer pourquoi tu utilises des outils ou des méthodes d'évaluation. Tu dois lui présenter, tu dois lui expliquer à quoi ça sert et pourquoi tu as choisi d'utiliser cet outil ou de mettre en place cette situation, par exemple, de mise en évaluation concrète. La troisième clé, c'est que tu dois trouver ta marque de confiance. Ta marque employeur, elle existe, c'est parfait. Tu n'en as pas vraiment ou ta marque est peu connue, mais tu as quand même des moyens d'action. Tu peux mettre en avant tes outils, s'ils sont reconnus, tes partenaires, les cabinets avec lesquels tu travailles, ton adhésion à des acteurs ou des associations qui sont reconnues. Et surtout, tu dois soigner ta communication. Les annonces, les articles que tu peux publier, la façon dont tu vas présenter ton entreprise, tes équipes et bien entendu, ta manière de prendre la parole sur les réseaux sociaux comme sur LinkedIn. Alors, que dire en conclusion ? Tes croyances ne sont pas celles de tes candidats. Et nier cette différence, selon moi, c'est plutôt dangereux. Ben, c'est tout simple parce que si tu n'aides pas ton candidat, ses croyances à lui, elles ne vont pas bouger comme par magie. Et la situation, elle va se répéter de candidat en candidat. Alors, j'ai deux mots-clés pour toi, pour éviter le SOS « je ne comprends pas mon candidat », c'est « rassurer » et « expliquer ». Je te laisse les ressources dont je t'ai parlé dans les notes de cet épisode et je te souhaite une très bonne semaine. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as fait une super post-boost avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas à en parler autour de toi, c'est le meilleur moyen pour moi de faire connaître ce podcast. Tu peux aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si tu ne veux pas louper ta prochaine post-boost, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute. Post-boost est disponible partout. À très vite.